Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Aujourd'hui, nous vous proposons l'intervention de François Borde, inspecteur général honoraire du patrimoine de la Société de Borda. Il nous parle de Georges Camiade, un grand serviteur de la culture régionale. Voici l'intervention de François Borde.
Alors merci beaucoup d'abord à la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne de m'avoir permis de faire cette communication sur un personnage qui en fait correspond complètement au portrait robot dessiné dans l'appel à projet que nous avions reçu de cette rencontre où l'on souhaitait en fait mettre en avant des figures connues ou méconnues ayant joué un rôle dans la vie des sociétés ou plus largement dans celle de la cité. Mais avant d'aborder l'œuvre et l'action de ce monsieur, Georges Camiade, je vais vous donner quelques éléments d'état civil qui permettent un peu de le situer. Il est né à Dax le 24 avril 1845. Il est le fils d'Ajax Camiade et de dame Hélène Laurence Magne. Et il voit en fait le jour dans une famille de notables et qui est parente par alliance avec des lignées landaises très connues, qui jouent un rôle dans la société, et notamment des familles qui sont liées à des maires de Dax. Un autre point à noter, c'est qu'il est le seul garçon dans une fratrie qui compte 5 filles. Alors sa jeunesse va être marquée par un engagement politico-militaire très original, puisque à l'âge de 25 ans, Georges Camiade est manifestement royaliste. Et il s'engage notamment aux côtés d'un personnage un peu particulier qui s'appelle Henri de Catelineau. Henri de Catelineau, qui est un ancien exilé vendéen, qui s'était alors impliqué dans la défense du pape Pie IX et des États pontificaux. Il emporte d'ailleurs sur le seul portrait qu'on connaisse de lui l'uniforme. Et il a donc 25 ans à l'époque. On apprend également qu'en août 1871, il fait parvenir au prétendant du trône de France Henri V, comte de Chambord, une lettre où il se présente, se mettant à ses pieds pour y déposer avec son épée l'hommage de son plus absolu et plus respectueux dévouement. Donc vous voyez un engagement extrêmement royaliste. Mais il va surtout se trouver mêlé à cette époque-là à la troisième guerre carliste, parce que sa famille se trouve particulièrement impliquée dans ces affaires qui concernent l'accession au trône du prétendant Don Carlos, qui doit s'appeler Septimo, Miguel Gabriel Rafael de Bourbon. Et sa famille reçoit notamment le prince et ses plus proches collaborateurs dans le premier trimestre de l'année 1871. Alors ils sont d'abord logés de manière clandestine, puisqu'ils doivent se cacher dans leur domaine de Beiris à Estibaux, et ils sont ensuite cachés à Dax, dans la maison familiale, alors voilà donc Don Carlos, dans la maison familiale de Dax, au 3 de la rue du Mirail, une maison qui existe encore et qui permettait, en fait, dans sa partie haute, dans les greniers, de pouvoir communiquer avec une maison voisine qui était occupée par des exilés espagnols, parce qu'il y avait une concentration d'exilés espagnols à cette époque-là à Dax. Et l'épouse de Don Carlos, Doña Margarita de Parme, va venir l'y rejoindre entre le 24 février et le 27 mars. Et en 1875, fidèle à cet engagement, d'ailleurs, Georges Camiade va rejoindre les troupes carlistes en Navarre et va participer certainement aux derniers combats qui vont entraîner la fuite en France du prétendant au trône qui marque la fin de 40 années de lutte fratricide en Espagne. Et c'est à cette époque-là, vers cette époque-là, que va commencer son engagement associatif. Dès 1874, il adhère à la Société des sciences et arts de Bayonne, au lendemain même de la création de celle-ci. Il y est admis dans sa séance du 21 janvier 1874, sur la proposition du président, le marquis de Follin. Et il ne manque pas d'en remercier aussitôt la société, mais ne semble cependant pas assister en personne aux séances. Deux ans plus tard, en 1876, il est l'un des 20 membres fondateurs de la Société de Bordeaux, dont plusieurs sont également membres de la Société Sœurs de Bayonne, comme Gaspard de la Tolade et Victor Lorrain. Camiade est élu dès l'origine secrétaire adjoint de la nouvelle Société savante landaise et il va occuper cette fonction les trois années suivantes avant de disparaître de nos tablettes entre 1880 et 1886. Il revient dans ses foyers et au sein de la Société de Bordeaux en courant de 1886 et il est élu à la fin de l'année archiviste, donc c'est un de mes vieux prédécesseurs. Camiade occupe ce poste jusqu'en 1892 avant de devenir secrétaire général archiviste pour les années 1893 et 1894 à la suite du décès d'Émile Taillebois. Il est également membre au sein de la société de la commission d'économie, de celle du musée et de celle de météorologie. Enfin, à partir de 1895 et jusqu'en 1905, il remplit les seules fonctions de secrétaire général. Rongé par la maladie, il va décéder dans sa ville natale et dans sa maison à Dax le 21 mai 1906, à l'âge de 61 ans. Alors, tout au long de cette carrière à la Société de Bordeaux, il va faire preuve d'une grande activité scientifique. C'est en effet un chercheur passionné d'histoire et surtout d'archéologie. Il devient d'ailleurs, en décembre 1887, membre de la Société française d'archéologie, où il y est présenté par Émile Taillebois. Il devient même, jusqu'à son décès, inspecteur de cette société pour les Landes. Il ne manque bien sûr pas de s'impliquer dans les manifestations scientifiques organisées dans notre département, et dès 1882, on le trouve dans la liste des membres du Congrès scientifique, historique et archéologique de Dax, à l'occasion duquel il présente une partie de ses propres collections qu'il installe lui-même dans l'une des salles du collège. On apprend, par le rapport d'Émile Taillebois, que le panneau du fond est occupé par la belle collection de la famille Camiade de Dax. Nous y admirons de vieilles tapisseries, des sièges recouverts de magnifiques cuirs de Cordoue, des vieilles armes, une arbalète du XIVe siècle avec incrustation d'ivoire et son vireton, deux appliques Louis XV, etc., etc. Monsieur Georges Camiade y a ajouté quelques haches et silex préhistoriques, un moulin gallo-romain trouvé à Luglon, des copies de vieilles cartes du pays faites à la main par lui avec une rare perfection, etc. En 1888, on retrouve Georges Camiade assurant les fonctions de trésorier du Congrès archéologique de France dans sa 52e session tenue à Dax et Bayonne du 12 au 19 juin. Il se voit en outre chargé de l'organisation dacquoise de cette manifestation en compagnie d'Émile Taillebois, alors inspecteur général de la Société française d'archéologie. Et Camiade y est récompensé d'une médaille d'argent pour le zèle avec lequel il s'est occupé du Congrès et pour ses fouilles et travaux archéologiques. Enfin, il participe en 1891 à une exposition rétrospective au château de Pau. On pouvait y admirer, dans la salle des gardes, une panoplie aux proportions colossales qui comprend une infinité d'armes, la plupart étrangères, appartenant à M. Georges Camiade. Comme on le voit, Georges Camiade était un grand collectionneur, comme d'ailleurs beaucoup de ses collègues amateurs d'histoire et de culture. Et en plus de présenter ses trésors dans des expositions, il va enrichir à l'occasion les collections d'institutions locales, au premier rang desquelles, bien évidemment, le musée que gère alors la Société de Bordeaux. En 1885, il offre ainsi plusieurs poteries trouvées par lui dans les fouilles qu'il a faites sur l'emplacement de l'ancienne ville de Tastoa, entre Pomarès et Estibo, ainsi qu'un lot de monnaie médiévale et même une couleuvre de grande taille prise et préparée par lui. Enfin, le dernier aspect de l'activité scientifique de Georges Camiade que j'évoquerai, et non des moindres, est celui des publications qu'il a faites ou auxquelles il a collaboré. Pour la plupart, elles sont en rapport avec les recherches qu'il menait autour d'un site qui le passionnait, que je viens de citer, celui de Tastoa, dont je viens de vous parler. Il s'agissait d'une zone qui se trouvait dans les Landes actuelles, aux confins des trois communes de Pomarès, Estibo et Mouscardès, très riche en tumuli. Il était persuadé qu'au centre de cette zone, avait existé à l'époque gallo-romaine une ville à laquelle la tradition aurait conservé le nom de Tastoa ou Tastua. Il organisa sur le site plusieurs expéditions archéologiques, seul ou accompagné de certains de ses collègues, comme Eugène Dufourcé ou M. de Morgan. Ils y réalisèrent des collectes de tessons et des fragments de mobilier et obtinrent en 1885 le soutien financier de la Société de Borda pour continuer leurs fouilles. Georges Cagnade publia d'ailleurs cette année-là deux articles sur ses recherches, accompagnés d'une carte dressée par ses soins. Lorsqu'en 1925, Xavier de Cardaillac publie son essai sur les tumulus de la traînée glaciaire de Lourdes à Dax et évoque notamment la découverte de nouveaux tumulus dans les landes de Clermont, d'Estibaux et de Pomarès, il ne manque pas de rendre hommage à l'œuvre de son prédécesseur. Citation. « Pour faciliter les travaux de ses collègues de la Société de Borda, M. Georges Cagnade leur a servi de collaborateur, dévoué et inlassable, avec son crayon ou son objectif, éclairé par ses connaissances archéologiques les plus sûres. Il a relevé 86 tombelles sur les landes précitées. Il les a réparties en 5 groupes et les a reportées sur une carte des lieux. Tous ces tertres sont à portée des chemins et des points d'eau. M. Georges Cagnade s'associe à la théorie de ses collaborateurs et voit là, lui aussi, des restes d'habitation et non pas des lieux de sépulture. » Cette citation met en fait en exergue ce qui certainement a constitué l'activité scientifique principale de Georges Cagnade, celle d'illustrateur, une activité qu'il a largement mise au service de ses amis et collègues. Dessinateur et photographe de grande qualité, il a ainsi contribué à enrichir notre connaissance du patrimoine archéologique landais, parfois aujourd'hui disparu. Son œuvre est relativement aisée à identifier, car il avait pour habitude de signer de son nom ses croquis et ses clichés. Outre l'illustration de quelques articles, il a surtout œuvré dans le cadre de la fameuse Aquitaine historique et monumentale. Parue tout d'abord à partir de 1890 en supplément du bulletin de la Société de Borda, les différentes études et monographies qui la composent furent réunies en un premier volume en 1893, puis un deuxième en 1896 et enfin un troisième et dernier en 1897. Le premier associait trois auteurs, Eugène Dufourcé, notre présidente de séance, Georges Cagnade et Émile Taillebois. Les deux autres, réalisés après le décès d'Émile Taillebois, ne sont l'œuvre que de Dufourcé et Cagnade, comme vous le voyez sur la deuxième image. Les textes composant ces recueils n'étant pas signés, il est difficile de connaître la part que chacun y prit, mais l'on peut avancer avec une certaine assurance que les véritables auteurs des notices furent très certainement Dufourcé et Taillebois et que la quasi-totalité des illustrations fut l'œuvre de Georges Cagnade, ce qui justifia qu'il apparaisse comme auteur au même titre que ses collègues. Je vous en montre deux exemples ici. L'abbaye de Sordes, donc vous voyez en bas à gauche sa signature, G. Cagnade, en fait dans la photo elle-même, hein, voilà. Et ici, la ville de Casaubon, dans le Gers. Alors, impliqué dans les sociétés savantes, il l'était aussi dans sa ville de Dax. Et c'était une personnalité dacquoise connue et reconnue. J'en veux pour preuve la confiance que la municipalité de sa ville natale lui avait accordée avec la Société de Borda et les établissements thermaux de la ville, en le nommant en 1895 délégué à l'exposition de Bordeaux pour y organiser une exposition des produits du pays et des documents de l'histoire locale. Il en fit lui-même le compte-rendu circonstancié dans notre bulletin où il revient sur cette nomination en déclarant « Le profond dévouement que nous avons pour notre vieille cité dacquoise, l'intérêt que nous portons à la prospérité de sa station balnéaire, la confiance enfin qui nous a été témoignée, nous imposer le devoir d'accepter cette délicate mission. » Il nous dévoile incidemment un peu de sa personnalité, faisant preuve dans la scénographie qu'il a dû réaliser dans un délai très court d'une originalité certaine. Citation. « Notre premier soin a été, en écartant en principe la disposition vulgaire et banale de vitrines et de bocaux rangés en bataille, d'adopter un plan sortant un peu de l'ordinaire et en quelque sorte pittoresque, seul moyen, dans une exposition comme la nôtre, d'attirer l'attention des visiteurs. La plus grande partie de l'installation a donc été établie sur certaines roches qui généralement accompagnent les eaux thermales, telles que selgem, gypse, ophite, en simulant le soulèvement de cette dernière roche pour rappeler grosso modo la géologie de notre contrée. En bon et dévoué sociétaire, il intégra même dans ce décor la collection complète des 9 premières années du bulletin de la Société de Borda et décora de nombreux éléments architecturaux avec des dessins, photographies et phototypies, dont plusieurs de sa propre production. Mobilisé à Bordeaux à l'occasion de cette exposition, il reçut mandat de la Société de Borda pour la représenter officiellement au congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences qui s'y tenait cette année-là, ce qui lui fournit l'occasion de promouvoir sa région. Il conclut d'ailleurs son compte-rendu par ces paroles en partie prémonitoires. « Nous sommes heureux, dans ces diverses circonstances, d'avoir pu prêter à notre ville un concours modeste mais dévoué et d'avoir contribué à affirmer au monde moderne l'antique réputation des eaux tarbéliennes. Aujourd'hui, un traitement balnéaire nouveau par les eaux salées et les eaux mères est venu se joindre au traitement hydrothermal. Ils font de Dax une station unique qui prend son essor. L'avenir lui appartient. » La qualité de son travail et de sa présentation lui valut un diplôme d'honneur, d'ailleurs à l'occasion de ce congrès, la plus haute récompense attribuée à la section d'hydrologie. Au lendemain de son décès, la Société de Borda lui rendit un hommage solennel en publiant le discours prononcé par son président Jacques-François Abadie. Avec la disparition de ce dernier survivant de la petite Pléiade à laquelle notre compagnie doit son existence, un cycle se terminait, il y faisait l'éloge de ce « d'aqua dans l'âme » qui, quoique n'ayant jamais occupé de fonction municipale, se montrait en toute occasion le serviteur passionné des intérêts de la ville, qu'il aimait dans son présent comme dans son passé, et dont il avait à cœur d'étendre au loin la réputation. En 1925, son fils Charles Camiade fit hommage à la Société de Borda d'environ 350 clichés en photographie et en phototypie établis par son père et qui avaient notamment servi pour la publication de l'Aquitaine historique et monumentale. Il perpétue ainsi dans nos archives la mémoire de celui qui fut l'un des grands mais humbles serviteurs de l'histoire, de l'archéologie et plus largement de la culture de Dax et des Landes. Merci.
Georges Camiade, un grand serviteur de la culture régionale, vous venez de suivre l'intervention de François Borde, inspecteur général honoraire du patrimoine de la Société de Borda. Et voici maintenant une nouvelle intervention, celle de Michel Roy, psychiatre honoraire. Il nous parle du professeur Léon Testu, 1849-1925, anatomiste célèbre, bienfaiteur de la Société historique archéologique du Périgord. Michel Roy.
Je remercie tout d'abord la SSLA de me permettre de présenter. J'ai la lourde tâche d'être à la fin alors que tout le monde est fatigué. Je vais essayer d'aller relativement vite. Mais je m'aperçois en passant à la fin que je vais parler d'un personnage qui réalise un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a entendu. Par ailleurs, je parle après M. Borde, qui a été, avant moi, membre de la Société historique et archéologique du Périgord et qui a occupé, je crois, le poste de secrétaire, alors que moi, je suis secrétaire adjoint. Voilà. Alors, la différence entre nous, c'est que lui a quand même des compétences historiques reconnues, alors que pour ma part, je suis plutôt un historien amateur. J'ai exercé pendant 40 ans comme psychiatre et je m'intéresse maintenant à l'histoire et surtout à l'histoire des personnes et des personnes liées à des situations particulières. Léo Testu, dont je vais vous parler aujourd'hui, est un personnage qui représente lui aussi un peu, d'une certaine manière, le portrait robot de ces érudits de la fin du 19e et début du 20e siècle, qui avaient une activité professionnelle, mais qui avaient en dehors de celle-ci des hobbies, comme on pourrait dire, liés à l'histoire, mais également un côté un peu encyclopédique et pour ce qui est de Testu, également des dons d'illustrateur. Donc Léo Testu, je dis un jeune paysan qui ira loin, en effet, il a vu le jour à Saint-Avis-Seigneur, que peut-être certains d'entre vous connaissent parce que c'est une toute petite localité du sud de la Dordogne qui est célèbre par les ruines de son abbaye et l'église abbatiale qu'on voit ici au milieu. Eh bien, les grands-parents maternels de Léo Testu habitaient juste en face de l'église, dans cette maison à double chapeau, et c'est là qu'il a vu le jour, et la commune de Saint-Avit-Seigneur lui rend hommage à travers un buste. Mais très vite, il a quitté Saint-Avit-Seigneur pour aller avec son père et sa mère vivre dans la petite ville voisine, c'est-à-dire Beaumont-du-Périgord. Son père était un homme de famille modeste, qui n'avait pas de culture énorme, mais qui était un grand travailleur, qui a d'abord travaillé dans une forge, une des forges de la vallée de la Couze. Mais comme toutes ces forges artisanales, vers le milieu du XIXe siècle, elles ont périclité avec la naissance de l'industrie. Donc le père abandonne cette forge pour aller fonder une quincaillerie à Beaumont. La mère biologique de Léo Testu meurt alors qu'il n'avait que 4 ans. Son père se remariera beaucoup plus tard avec une femme qui assume son rôle de mère. Mais Léo va passer son enfance entre son père, l'école et le curé du village. Dès son enfance, il est repéré, en effet, à la fois par l'instituteur de Beaumont et le curé de la même localité, comme ayant de grandes capacités. Le curé propose à son père de lui donner des cours de latin, en plus du catéchisme, après l'école. Et quand arrive la fin de l'école primaire, on le sent capable de faire des études secondaires, et le curé va conseiller de l'envoyer au petit séminaire de Bergerac. Petit séminaire de Bergerac où il fera toutes ses études secondaires jusqu'à ce que l'on appelle maintenant la classe de première. Et ensuite, il ira faire sa classe de philo au grand séminaire de Sarlat. Mais il semble qu'il n'ait pas gardé un bon souvenir de Sarlat, alors qu'il restait attaché à Bergerac et à certains de ses maîtres du petit séminaire. Certainement, le curé de Beaumont aurait aimé qu'il entre dans les ordres. Il était un petit peu, pendant toutes ses études, à la fois primaires et secondaires, en compétition avec un autre jeune Beaumontois qui, lui, deviendra évêque, Monseigneur Marty. Alors, pas l'archevêque de Paris, mais un Monseigneur Marty qui a été évêque de Montauban et qui, dans les années 1920, s'est illustré parce qu'il n'était pas d'accord avec les encycliques et les bulles du pape. Mais Léo Testu, lui, n'a pas suivi des études de théologie. Il a décidé de faire médecine et il est entré à l'école de médecine de Bordeaux, ce n'était pas encore une faculté, en 1868. Et c'est là que survient un épisode qui a bouleversé tout le monde à l'époque, c'est le conflit franco-allemand. Léo Testu va se retrouver incorporé dans le régiment des mobiles de la Dordogne, c'est-à-dire le 22e régiment de marche de la garde nationale mobile. Cette garde nationale avait été instaurée en 1868 par le maréchal Niel, qui était ministre de la guerre à l'époque, qui pressentait que les forces françaises étaient nettement inférieures à celles de l'Allemagne, que par ailleurs les aventures de Louis-Napoléon Bonaparte risquaient de conduire à un conflit, et cela n'a pas manqué. Alors, je passerai peut-être un peu plus vite que j'aurais voulu sur cet épisode, sauf pour pointer quelque chose qui a été dit par la biographe de Léo Testu et que je pense pouvoir contester parce que je me suis intéressé au régiment des mobiles de la Dordogne. Il est dit par la biographe que Léo Testu a combattu avec les zouaves pontificaux. Et ce n'est pas vrai. Il y a une partie du 22e de marche, c'est-à-dire des gardes mobiles de la Dordogne, le 3e bataillon, qui a été affecté en appoint aux volontaires de l'Ouest, qui était un bataillon d'anciens zouaves pontificaux, placé sous la direction de Catlino, dont il a été question tout à l'heure, lequel Catlino était le petit-fils du Catelino vendéen. Et il y avait aussi dans les volontaires de l'Ouest un autre commandant qui s'appelait Charette, petit-fils du Charette de la Vendée. Voilà, je passe un peu vite. En tout cas, Léo Testu, lui, était dans le premier bataillon, soldat du Bergeracois. Il était affecté au service de santé et il s'y est fait remarquer auprès du médecin-major Barrault, qui était un médecin de Bergerac, qui s'est porté volontaire et qui a rejoint le régiment à Tours lorsque le régiment est arrivé à Tours pour participer à l'armée de la Loire. Dans cette armée de la Loire, il a eu l'occasion de combattre aux côtés d'un autre régiment qui était commandé par un baïonnet, l'amiral Jorégui Berry. Alors, ceux qui ne sont pas versés sur les problèmes de la guerre de 70 se demanderont pourquoi un régiment d'infanterie était commandé par un marin. Mais ça a été beaucoup le cas en 1870, surtout dans ces forces d'appoint qu'étaient les gardes mobiles. Ces gardes mobiles qui ont été envoyés sur le terrain après la défaite de l'armée régulière de Napoléon III à Sedan, et qui ont été envoyés pour essayer de contenir l'avancée des Prussiens, et en particulier dans l'armée de la Loire. Alors, là aussi, dans ces forces de volontaires ou de rappelés, il y a eu non seulement des zouaves pontificaux, mais il faut savoir qu'il y a eu aussi des volontaires italiens commandés par Garibaldi, qui, eux, étaient affectés à l'armée de l'Est. Donc on retrouvait dans les armées qui étaient les armées de la République, la 4e République toute nouvelle, on retrouvait d'un côté des royalistes ex-vendéens, ex-zouaves pontificaux, et d'un autre, heureusement pas dans la même armée, des volontaires italiens commandés par Garibaldi. Voilà un peu ce qu'était la guerre de 70. Les mobiles de la Dordogne se sont illustrés à deux reprises. Ils se sont illustrés à une première reprise par une victoire, c'est celle de Coulmiers, et victoire qui est à peu près une des seules de l'armée de la Loire, mais qui n'a pas été exploitée, certainement parce que le général Dorel de Paladine, qui commandait les 15e et 16e corps, a estimé qu'il n'avait pas des troupes suffisamment aguerries et qu'il ne pouvait pas mener l'offensive comme lui demandait Gambetta. Donc il a attendu jusqu'à la fin du mois de novembre. En décembre, il leur a été donné ordre d'attaquer, mais ça a été la bataille de Loigny qui a été une déconvenue, une grosse défaite pour les mobiles, et en particulier les mobiles de la Dordogne, qui ont beaucoup perdu. Et c'est là quand même que Léo Testu s'est distingué, parce que le soir de la bataille, il a participé avec le docteur Barrault à soigner de nombreux blessés, tant français que allemands, dans un hôpital de campagne improvisé dans une ferme, dont une partie brûlait, disent les archives. C'est là donc qu'il a gagné la médaille militaire, qu'il a gagné un diplôme de la Croix-Rouge, mais qu'il a gagné aussi certainement sa réputation vis-à-vis des zouaves pontificaux, parce qu'il a été amené à transporter et à soigner le général de Saunis, qui était lui aussi un général breton qui commandait tous les volontaires de l'Ouest et qui lui a gardé toute sa reconnaissance. Il semble que le docteur Barrault et Léo Testu, son aide, aient été faits prisonniers ou du moins retenus par les Prussiens au moins jusqu'au mois de janvier 1871, et ils n'ont pas participé à ce qu'on appelle la deuxième armée de la Loire, dans laquelle l'amiral Jean-Guy Berry était commandant adjoint. Mais la deuxième armée de la Loire n'a pas mieux fait que la première, et donc il y a eu une déroute. Je n'en dirai pas plus sur la guerre de 70. J'en viens à la carrière médicale de Léo Testu, qui reprend ses études dès qu'il est libéré en 1871 et qui va à Bordeaux continuer à être un travailleur acharné, particulièrement volontaire, certains même l'appelaient têtu, et qui va être plusieurs fois lauréat de la faculté de Bordeaux, qui rapidement, et parce que par ailleurs il a besoin de quelques subsides, travaillera aussi comme préparateur d'anatomie et de physiologie, c'est-à-dire essentiellement qu'il préparait les dissections et qu'il s'occupait également de montrer sur les pièces anatomiques les différents éléments aux étudiants. Donc il continue ses études de médecine brillamment. Il va passer sa thèse en 1877, non pas à Bordeaux, mais à Paris, parce que Bordeaux n'était pas encore faculté, et il passe une thèse avec, comme président de jury, Vulpian, qui était à l'époque le doyen de la faculté de médecine de Paris. Il obtient également la médaille d'argent, c'est-à-dire qu'il arrive avec le deuxième prix de thèse. Et alors que d'autres auraient pu se lancer dans une brillante carrière, soit de chirurgien, puisqu'il connaissait très bien l'anatomie, soit de médecin mondain, Testu se lance dans une carrière de chercheur et d'enseignant, et il devient ce qu'on appelait dans les facultés de médecine un fondamentaliste. En effet, quelqu'un qui n'a pas d'activité clinique, mais qui enseigne une science fondamentale, l'anatomie. Il va revenir à Bordeaux, où il passe l'agrégation. Il reste 2 ans de plus à Bordeaux. Puis il va être nommé professeur titulaire à Lille en 1884. Il lui reste très peu de temps parce que à Lyon, il y a un Lillois qui est titulaire de la chaire d'anatomie qui veut rentrer chez lui. Ils échangent leur chaire et c'est ainsi que Léo Testu va commencer une carrière de près de 40 ans, titulaire de la chaire d'anatomie de Lyon. Mais parallèlement, il devient membre de la Société d'anthropologie qui est toute nouvelle et membre de nombreuses sociétés savantes françaises et étrangères. Il en fonde même quelques-unes à Bordeaux. Et parmi les sociétés savantes dont il était membre, il y a non seulement la société La Chape du Périgord, mais il y a aussi la société de Borda. Et donc, il va, durant toute sa carrière, devenir un professeur célèbre dans sa spécialité. On voit ici son laboratoire sur la photo de gauche, avec tous les crânes qui trônaient dessus et qui vont se retrouver dans une caricature dont je reparlerai tout à l'heure. Sur le plan médical, son œuvre majeure, c'est le traité d'anatomie humaine qui a nourri pendant 50 ans les étudiants en médecine français. Il y a eu en effet 9 éditions jusqu'en 1945, c'est-à-dire qu'il y a eu des éditions pendant 20 ans après le décès de Testu. Son traité avait été repris par son élève Latargé, qui le co-signait depuis déjà pas mal de temps avec lui. Ça a été un ouvrage de référence jusqu'aux années 50, c'est-à-dire l'apparition du bouquin de Rouvière, le traité d'anatomie de Rouvière, que j'ai connu moi dans les années 70 et qui a continué jusque dans les années 80-90. Donc 9 éditions du traité d'anatomie de Testu, traduit dans plusieurs langues, plusieurs pays, et célèbre aussi par ses illustrations. Alors là, je ne vous montre pas une illustration du traité d'anatomie, mais une illustration d'un ouvrage sur l'anatomie de l'utérus de la femme enceinte qui a été publié par le laboratoire d'anatomie de Lyon et qui vous montre un petit peu le type de schéma qu'il pouvait y avoir, qui sont à la fois très explicatifs par le schéma, mais également, je trouve, très intéressants aussi sur le plan du dessin et de la couleur. Et j'ai trouvé aussi dans nos archives à la Chape un dessin illustrant l'expertise d'un poilu blessé en 14 d'une balle qui avait frôlé le cœur, expertise réalisée par Léo Testu, avec un dessin à la fois très simple et très explicatif pour appuyer son propos. Donc, Léo Testu devient célèbre en France, mais également à l'étranger, célèbre par son enseignement, par ses ouvrages, par toutes les académies dont il fait partie. Il est souvent président de jury de thèse. Il est envoyé jusqu'à Beyrouth pour un jury d'agrégation. Il est multidécoré et il va gravir les échelons de la Légion d'honneur jusqu'à devenir commandeur en 1920. Et il gagne aussi le privilège d'être caricaturé, comme ici, dans le numéro de Chanteclerc, numéro 107 de 1912. Il a également une renommée internationale avec des diplômes. Je crois qu'on a à gauche un diplôme italien, au milieu un diplôme roumain et à droite c'est un diplôme russe. Il est membre de très nombreuses sociétés savantes, comme je l'ai dit, dans le domaine médical mais aussi anthropologique et historique. Il intègre la Société d'anthropologie de Bordeaux, société qui a été fondée par Paul Broca, qui était lui aussi un médecin neurologue très célèbre. Et il est membre de la Chape, où il a été parrainé par le docteur Galli, fondateur de la Société du Périgord, et lui-même ensuite a parrainé d'autres membres, dont un chirurgien célèbre, Samuel Pozzi. Et on verra que Pozzi, qui était le contemporain de Testu, est un peu son opposé sur le plan de la vie personnelle. En effet, si Pozzi a été connu pour être un homme du monde avec une vie parfois un peu tumultueuse, Testu a mené une vie qui était tout sauf mondaine. D'où peut-être le titre d'une thèse qui m'a servi aussi pour mon travail, qui est la thèse de Paul Grenier, Testu inconnu. Et il fait une biographie de Testu. Testu avait une vie très simple. Il avait épousé la fille de sa logeuse de Bordeaux. Dès qu'il a eu sa thèse, ils ont fait ensemble l'acquisition d'une maison à Beaumont, où ils passaient toutes leurs vacances et où, on le verra, a commencé sa passion pour l'archéologie. Son épouse l'a beaucoup assisté dans son travail éditorial en particulier. Alors, Paul Grenier nous dit, on ne sait pas les études qu'il avait faites, mais elle parlait plusieurs langues et elle a aidé Léo Testu dans la publication des publications étrangères de son traité d'anatomie. Le drame du couple Testu est de ne pas avoir eu d'enfant et que, par ailleurs, Jeanne décède en 1904. Après une banale intervention chirurgicale gynécologique. Alors certains diront s'il a fait appel à Pozzi, mais Pozzi était à Paris ou même à l'étranger et pas à Lyon. Donc c'est le drame un peu de la vie de Testu qui, après être devenu veuve, continue son travail à la fac de Lyon avec à nouveau, à la fin de sa carrière, la survenue d'un nouveau conflit et du conflit mondial de 1914. Il a alors 65 ans, il a des grades militaires de réserve, mais il est trop âgé pour être au front et il va se porter volontaire pour le service de santé. Il va être nommé avec son ami Pitre, qui était un neurologue célèbre sur Paris, mais originaire de Bordeaux. Ils vont être tous les deux nommés co-directeurs de l'hôpital de la Barrière Saint-Jeunesse, un hôpital qui a eu jusqu'à 500 lits et qui accueillait des grands blessés de la tête et du crâne dans un ancien... dans un ancien lycée privé. Ça a été un peu la fin de sa carrière. Il est mis à la retraite en 1919. Il s'intéressait déjà, comme on l'a dit, à l'histoire, à la préhistoire et à l'archéologie. Il avait travaillé sur le squelette de Chancelade en Dordogne, mais travaillait aussi sur des tumuli. Et sans doute a-t-il connu Caminade. Il avait travaillé sur des tumuli à la limite des Landes et des Basses-Pyrénées. La retraite reste très active pour lui et c'est l'occasion de faire son dernier chef-d'œuvre, si on peut dire, à savoir 5 ouvrages, c'est-à-dire près de 3500 pages consacrées à l'histoire de la Bastide de Beaumont. Mais avec 2 volumes particulièrement importants en nombre de pages, consacrés à Beaumont pendant la période révolutionnaire et à la Société des Amis de la Constitution de Beaumont. Là, ce ne sont pas, à mon sens, les écrits d'un zouave pontifical. Il aurait certainement encore publié, s'il n'était pas mort brutalement en janvier 1925 d'une crise cardiaque, qui faisait suite à quelques semaines de distance avec un accident de voiture survenu en revenant des Landes, donc peut-être d'une réunion de la société de Borda. Je vais parler plus rapidement, mais parler quand même du testament de Léo Testu. En effet, il meurt sans descendance, il n'avait comme héritier que quelques cousins plus ou moins éloignés, essentiellement d'ailleurs des parents de sa mère biologique. Donc il décide de faire don sa fortune et de ses collections à la fois aux communes qui lui sont chères, à des bibliothèques qui lui sont chères, en particulier celle de la faculté de médecine de Lyon, mais aussi de l'Académie de médecine. Et il fait un legs très important à la Société historique du Périgord. Il lui lègue ses collections préhistoriques, mais également il désigne la chape comme sa légataire universelle et le président comme son exécuteur testamentaire. Et ça, à la fois, n'est pas du goût de tout le monde et n'est pas non plus une histoire très simple. Alors, quel était le legs qu'il fait à la chape? Il y avait d'abord 200 000 francs de l'époque, et on verra à quoi ça va servir. Ces collections d'objets préhistoriques qui ont été évaluées en nombre à 1400 pièces et qui ont été déposées au musée des Périgord. Et il a légué aussi à la chape de nombreux objets personnels, des livres, des photos, des dessins, des cours, etc., dont vous avez vu une partie. Et il a légué aussi à la chape un dolmen qui se situe maintenant sur la commune de Beaumontois en Périgord, mais dans une ancienne commune qui s'appelait Nogales-et-Clotte. Alors un dolmen dont vous voyez sur la gauche une représentation, un dessin de Léo Drouin au 19e siècle, à peu près à l'époque de la naissance de Léo Testu, et dont on voit une photo plus récente. Et donc le legs à la chape, je dirais qu'il a permis en 1937 de faire l'acquisition d'un ensemble d'immeubles qui sont devenus le siège de notre société, mais également qui était très vaste avec des appartements qui ont servi à alimenter les fonds de la société jusqu'en 2018 où la société n'avait plus du tout la possibilité matérielle d'entretenir tous ces immeubles. Elle a donc utilisé une annexe que l'on voit sur la photo de gauche pour devenir son nouveau siège, dans lequel hommage est rendu à Léo Testu sous forme d'un buste qui trône à côté de celui du buste du docteur Galli, le fondateur de la société. Et je vous montre mes sources. Je vous remercie. J'ai été un peu long, mais...
Le professeur Léon Testu, 1849-1925, anatomiste célèbre, bienfaiteur de la Société historique archéologique du Périgord, vous venez de suivre l'intervention de Michel Roy, psychiatre honoraire. Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdie, www.lapourdie.net.